Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 9e numéro d'Esprit Sport. On est avec vous donc pendant une heure pour vous parler de sport évidemment. Pour nous accompagner aujourd'hui, une équipe qui doit retrouver sa place de titulaire. Il a commenté des matchs de Ligue 2 sous moins 4 degrés en pleine semaine. Il est arbitre de foot amateur. C'est vous dire à quel point il aime être au service des autres et il est de retour pour nous aujourd'hui. Bonjour Corentin.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Comment ça va depuis la dernière fois?
Ça va bien, vous m'avez manqué tous en plateau.
Ah, ben c'est bien parce que vous n'êtes pas en plateau du coup, donc à distance. Côté de Sainte-Afrique.
Sainte-Afrique, tout à
magnifique.
Fait.
Magnifique. C'est notre chef d'orchestre, elle est à la baguette pour ce 9e numéro d'Esprit Sport. Bonjour Coraline.
Bonjour, très bon lancement, on parlait à l'instant de Quidditch justement.
Oui, c'est vrai, qui n'en est pas vraiment. Coraline, c'est demi-finale de Coupe du Monde.
Eh bien, très très bien, c'était la première fois que j'allais au Stade de France, donc très impressionnant de voir le Stade de France.
Parce que c'est pour ça que vous n'étiez pas là dans l'émission, c'est parce que vous étiez au Stade de France.
Exactement, tout à fait.
Pour une émission de sport, on a quand même rarement trouvé une excuse aussi valable.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Affaire à suivre, on verra pour voir si d'autres réélèvent le niveau. Erwan sera avec nous dans quelques minutes, on le retrouvera juste après le flash au programme de 7h. On va commencer par les tops et les flops de l'équipe. À suivre, un entretien en face-à-face avec des membres du club de foot australien du Stade Toulousain. Nous retrouverons Benjamin Grand et Florent, président du club. Ils seront là pour nous en apprendre un petit peu plus sur ce sport qui a des règles particulières, un terrain particulier, plusieurs sports mélangés. Ça donne le foot australien. Salé Ferreri sont en plateau avec nous. On les retrouvera dans quelques instants. La Coupe du Monde est finie. Enfin, presque, et dans cette émission, il sera l'heure de faire le point sur cette édition 2023. Que retenez-vous de cette Coupe du Monde de rugby à la maison? On en parlera dans cette émission et on terminera avec un pronostic et une analyse de match pour terminer cette émission. Il y aura un retour aussi sur le pronostic de la semaine dernière où, étonnamment, l'équipe composée d'Anne-Françoise et Erwan a fait un sans faute. Alléluia, j'ai envie de dire. Mais pour commencer, on retrouve l'information sportive de la région. C'est avec Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
5 étapes du Tour de France se dérouleront en Occitanie.
Oui, la 12e étape, le 11 juillet, entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot, passera par le Gers et le Lot. La 13e étape, le lendemain, se déroulera entre Agen et Pau. La 14e étape, le 13 juillet, partira de Pau. Deux arrivées au sommet attendent les favoris. La première à Saint-Lary-Soulan, après avoir grimpé le col du Tourmalet. La seconde, le lendemain, au plateau de Beille, après plusieurs cols difficiles. Départ de cette étape, le 14 juillet, de Loudanvielle. Ces deux étapes seront décisives pour le classement général. Fin du passage en Occitanie avec la 16e étape, le 16 juillet, entre Gruissant et Nîmes.
Avec 3,7 millions de spectateurs, le mondial de rugby a battu tous les records.
Oui, l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de rugby samedi contre la Nouvelle-Zélande. L'événement sportif a été celui de tous les records selon les organisateurs du groupement d'intérêt public France 2023. À l'issue de 7 semaines de compétition, soit 51 jours pendant lesquels se sont disputés 48 matchs, le mondial a réuni 3,7 millions de spectateurs dans les stades et les fan zones. À Toulouse, le village rugby, plus grande fan zone de France, a accueilli 200 000 spectateurs jusqu'au 22 octobre, date de sa fermeture. Celle-ci avait été fermée en raison du contexte sécuritaire, mais aussi suite à la défaite de la France face à l'Afrique du Sud. Le stadium a quant à lui comptabilisé 158 089 spectateurs en 5 matchs.
En top 14, Toulouse bat Bordeaux-Bègles.
Premier match à domicile pour ce retour à la compétition après une pause due à la Coupe du Monde de rugby. Victoire des Rouges et Noirs 29-22 en clôture de la 4e journée de top 14. Les hommes du Gomola ont réussi à faire basculer le match en leur faveur en l'espace de 2 minutes après 2 essais coup sur coup.
Le derby d'Occitanie s'est achevé par une défaite du TFC.
Montpellier accueillait Toulouse au stade de la Mosson dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 hier à 15h. Victoire de Montpellier 3-0. Mercredi 25 octobre, une lourde sanction avait été prononcée à l'encontre du MHSC pour les débordements occasionnés lors de leur rencontre. rencontre avec Clermont-Ferrand, c'était le 8 octobre dernier. Sanction qui exige la fermeture partielle de la tribune étant de taux au stade de la Mosson pour deux matchs.
Et des passionnés de vélo ont parcouru 500 km pour la dernière épreuve de l'Ultra Bike France.
Oui, créé par deux Toulousains, l'Ultra Bike France organisait sa dernière épreuve au départ de Labège, près de Toulouse, en Haute-Garonne, ce samedi et ce dimanche. Objectif, parcourir en une seule étape et en autonomie une boucle de 200, 300 ou 500 km. Ces ultra-courses permettent de partir à la découverte des plus belles routes de Haute-Garonne. Y participent des grands sportifs comme le triathlète toulousain Jérôme Save, arrivé quatrième au dernier championnat du monde d'Ironman, ou encore Sébastien Pailly, vainqueur du Biking Man Euskadi 2024. Les coureurs ont des limites de temps maximum pour finir la totalité du parcours. Il est de 15 heures pour le 200 km, de 22 heures pour le 300 km, de 34 heures pour le 500 km.
Et pour commencer cette émission, vous en avez l'habitude, on retrouve les tops et les flops de l'équipe.
Les tops et les flops.
Et on ne change pas une équipe qui gagne. Honneur aux dames, à vous Coraline.
Alors mon top sera pour les Toulousains en Outre-Manche. Alors malheureusement on parle beaucoup trop régulièrement des supporters qui sont mis en lumière pour leur comportement inapproprié. On fait un petit coucou au match qui aurait dû se dérouler hier soir Lyon-Marseille. Fort heureusement, c'est bien souvent une minorité qui fait défaut aux vrais supporters. Aujourd'hui, je voudrais vous mettre un coup de projecteur sur les Toulousains qui ont fait le déplacement jeudi jusqu'à Liverpool en nombre et en ambiance. Les 2400 supporters du TFC ont d'ailleurs été félicités par les autorités locales. Toulouse, vous devriez être fiers de vos fans qui se sont comportés de manière impeccable dans le centre-ville de Liverpool. Ils ont créé une atmosphère merveilleuse, fin de citation donc des autorités. Ils ont également été félicités chaleureusement par les Reds à la fin du match pour leur soutien durant toute la rencontre. Le TFC s'incline 5-1 avant le match retour le 9 novembre au Stadium.
Voilà, ça prouve un petit peu, au vu des récents événements, que tous les supporters de foot n'ont pas de l'eau ou du vide entre les deux oreilles.
Exactement, on est bien d'accord, effectivement, et tous les supporters ne se valent pas. Et mon flop sera pour la construction d'une tour d'arbitrage à Tahiti pour les JO. Alors que Bellara, célèbre vague du Pays Basque, a fait son retour ce week-end, c'est d'une autre vague dont je vais vous parler ce soir. Taupo, ville de l'île de Tahiti, va accueillir les Jeux Olympiques l'été prochain pour l'épreuve de surf. Et oui, il n'y a pas de vague à Paris. À cette occasion, une tour d'arbitrage va être construite. Des forages seront effectués, des canalisations marines créées qui vont détériorer la biodiversité et donc, à long terme, la vague elle-même, voire même carrément la détruire. Mathias Drollet, surfeur professionnel, souligne même que les conséquences pourraient être plus graves. Les risques sont simples et désastreux, destruction du récif et impact néfaste sur l'écosystème marin qui pourrait stresser toute la vie marine et propager ce qu'on appelle la ciguatera. Excusez-moi pour
quel accent.
Ah, exactement, tout à fait. Une scientifique néanmoins. Une maladie qui empoisonne tous les poissons. Taupo est un village de pêcheurs qui mangent leurs propres poissons et vivent de leur vente. Alors les solutions, tout simplement que le CIO accepte la tour en bois utilisée pour chaque compétition internationale, le soit également pour les épreuves de surf au JO, tout simplement, voilà. Un
véritable scandale une nouvelle fois. Erwan qui est arrivé enfin avec nous, bienvenue Erwan.
Bienvenue, merci, bonjour.
Voilà, ça y est, un petit peu de latence. Erwan, est-ce que vous avez un top et un flop à nous proposer ce soir?
Alors oui, du côté du top, je voulais signifier la réalisation de Canal+, pour le retour du top 14, parce qu'on avait un peu oublié ce que c'était des bons ralentis et une réalisation pertinente qui aidait à la compréhension du match. On l'avait pas trop vu, malheureusement, durant la Coupe du Monde, et vraiment ce retour, surtout au lendemain d'une finale qui a été encore une fois parfois illisible, surtout au niveau des phases de rock. Pas forcément mal arbitré, mais vraiment difficilement compréhensible pour le spectateur. Et ça fait plaisir d'avoir des ralentis qui, utilisent les bons angles ou qui arrivent de manière pertinente dans le bon tempo et qui permettent à tout un chacun de profiter du match au mieux.
Très bien. Et votre flop?
Et pour le flop, je voulais parler des Toulousains, le Toulouse FC, qui est plus connu sous le nom du TFC par ses amoureux. qui a connu un dimanche très très triste du côté de Montpellier pour ce qu'on appelle un peu, pour créer un événement qui n'en est pas vraiment un, le derby de l'Occitanie. Donc face à Montpellier, les Toulousains se sont inclinés 3-0. Alors voilà, le coach avait beau dire que voilà, ça ne se fait pas de prendre 3-0 quand une équipe qui a les ambitions qu'a le TFC. Cependant, on ne peut pas vraiment dire que c'est une surprise. Ça fait pas mal de matchs que Toulouse a quand même énormément de chance d'un point de vue de la défense. Les adversaires trouvent très souvent les poteaux. Et là, cette fois, bah, au lieu des poteaux, ils ont trouvé les filets et ça fait un score très très lourd pour les violets.
À noter que le Montpellier n'a pas joué de match de Coupe d'Europe. C'est
Voilà,
peut-être aussi la
Montpellier n'a pas
différence,
joué de match de Coupe d'Europe, effectivement.
peut-être aussi la différence qui a fait que Toulouse a un petit peu pêché. Corentin, vous qui êtes de retour avec nous aujourd'hui, on vous écoute.
Alors pour top flop, je vais suivre un petit peu Erwan avec un top orienté rugby et un flop football. Alors le top, c'est sur la reprise du top 14. Ça fait plaisir de retrouver notre bon vieux top 14 avec de superbes affiches et un multiplex qui a rythmé la journée de dimanche avec beaucoup d'essais et conclu par une victoire du Stade Toulousain face à l'UBB. On note la belle victoire de Pau face à Perpignan 39 à 24. Ça fera plaisir
Merci de le
à
souligner.
Coraline. Le carton de Toulon à domicile face à Oyonnax. Ou encore la défaite de La Rochelle dans sa forteresse de Marcel de Flandre face à Castres. Les Castrés qui se sont vengés des Rochelais, qui avaient mis fin à leur incroyable série de matchs sans défaite à domicile l'an dernier. Et petite mention spéciale pour Baptiste Germain, entré en deuxième mi-temps face à Bordeaux et qui aura planté un essai, un drop, des transformations et une pénalité. Il aura fait la totale pour son entrée. Lui qui a peut-être une place à aller chercher à l'ouverture en l'absence de Romain Tamac. Et puis en flop, on en a parlé un petit peu avec les incidents qui se sont produits en amont du match OM-OL ou l'Olympico, comme on l'appelle aujourd'hui. Un match qui n'a pas eu lieu, faute d'un caillassage du bus lyonnais par des abrutis. J'ai pas envie de les qualifier de supporters. Vous parliez de vide entre les oreilles. C'est bien ça, des abrutis qui ont privé 65 000 personnes d'une très belle soirée. Fabio Grosso et son adjoint ont été touchés, gravement blessés. Grosso qui aurait même pu perdre un œil dans cette histoire. La rencontre a été annulée, puis on attend la décision des instances concernant le report du match ou une potentielle sanction envers le club de l'Olympique de Marseille, qui, par l'intermédiaire de son président et de beaucoup de supporters, ont manifesté leur mécontentement et leur désaccord, en tout cas le fait qu'ils ne se joignaient pas au groupe de supporters qui a mené cette action.
Avant de parler de la violence dans les stades, le préfet avait classé le match à haut risque. Pourquoi avoir du coup autorisé ce match au club de supporters? Ça, c'est une question qui va peut-être être en suspens quelque temps, Coraline.
Oui, non, les supporters lyonnais aussi ne seraient pas forcément exempts de tout défaut, puisqu'il y aurait eu des gestes antisémites qui
Ah
auraient été
oui, non, mais là,
réalisés.
ils ont
Donc
fait la
voilà,
totale, là. Ouais, c'était...
Marseille comme Lyon ne sont pas.
Ah non, les deux clubs sont en tort, et il y a...
Exactement.
Voilà,
Donc.
c'est... Les deux clubs de supporters sont en tort. On peut relever aussi mention spéciale pour un exploit de Steven Dacosta. On en parlait la semaine dernière de karaté. Il est devenu samedi champion du monde de la catégorie de moins de 67 kilos pour la troisième fois d'affilée. Donc il est triple champion d'Europe. Il est il est double champion du monde, il me semble. Et il est aussi champion olympique, mais petite anecdote insolite, il ne fera pas les Jeux olympiques à domicile. Voilà, parce que le karaté, on l'a dit la semaine dernière, n'est pas une discipline, n'est plus une discipline olympique. Et en flop, on peut aussi noter, vous me confirmez, vous qui avez suivi le top 14 à la télé, les services d'animation dans les stades, ou du moins les personnes qui ont eu l'idée de mettre des musiques pendant le match, avant une mêlée, avant une touche, pour avoir cette ambiance un petit peu NBA, NFL. Venez, on arrête de faire ça.
Ça
On arrête de
fonctionnait.
mettre des musiques comme ça là. On n'est pas en NBA, on n'est pas en NFL, on n'est pas aux États-Unis. Laissons les supporters chanter quand il y en a, laissons les bandas faire ce qu'ils ont à faire. Mais par pitié, arrêtez de me mettre Eyes of the Tiger à fond dans le stade pendant 30 secondes parce qu'il y a une touche qui met 3 ans à être jouée. C'est affreux. Voilà.
Ça fonctionnait un peu pendant le Super Seven. Ça
Oui.
mettait, ça, mais parce que ça va avec l'ambiance du Super Seven,
Voilà, mais la Coupe du Monde
pas
à
là.
la télé,
Non,
c'était
on est
une
d'accord.
horreur. Là, dans les stades, on l'a vu hier à Toulouse, c'était affreux. Il faut arrêter. C'est Corentin, Erwan.
Oui, enfin, on est face à une artificialisation
Ouais,
finalement de
c'est
l'ambiance
incroyable.
dans les
Hein.
tribunes. Enfin, moi, pour l'avoir vécu quelques fois à Ernest Vallon notamment, c'est vrai que c'est un public qui est quand même de temps en temps qui manque peut-être un peu de mouvement. Et c'est vrai que on essaye des fois de lancer le public avec ça. Je pense qu'il vaudrait mieux peut-être
Mais c'est
essayer
aussi le rôle du
d'encourager le
speaker et
regroupement
des
de supporters.
bandas de réchauffer tout ça. On va pas mettre de la
Oui,
musique à fond
exactement.
pendant 30 secondes. Et encore, même pas 30 secondes des fois. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Tout de suite, on passe au face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
face à face à face. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Benjamin Grand, coach assistant du Stade Toulousain Football Australien. Bienvenue.
Bonsoir.
Et nous retrouvons aussi Florent, le président depuis 3 ans. Bienvenue.
Merci, bonsoir.
Voilà, on retrouve du beau monde pour parler du foot australien. Alors, Benjamin Grand, ça fait 11 ans que vous pratiquez le foot australien. Vous êtes coach assistant depuis un an. Vous assistez Stéphane Gauthier, qui est l'entraîneur principal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, trop bien. Ceux qui ne connaissent pas, expliquez-nous. Pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, qu'est-ce que c'est le foot australien? Un peu un mélange pour ceux qui ont déjà vu quelques morceaux de football, de rugby, de basket, tout mélangé. Ouais, je donne la parole, mais vous pouvez aussi, voilà, il n'y a pas de... Okay. Vous choisissez qui parle.
Moi, je vais commencer. Donc, le football australien, comme vous l'avez dit, c'est un mélange de plusieurs sports et ça peut paraître compliqué au premier abord quand on ne connaît pas. Mais déjà, pour commencer, je vais essayer d'être clair et simple. C'est un sport d'extérieur qui se joue avec un ballon ovale sur un terrain ovale. On joue en 9 contre 9 avec 6 remplaçants, donc en gros c'est une équipe de 15 et puis on tourne en illimité. L'objectif est simple, c'est de marquer entre les cages. Donc on a 4 poteaux, c'est comme les 2 poteaux du rugby, on va dire, plus 2 autres poteaux sur les extérieurs. On peut marquer seulement au pied, c'est 6 points au milieu, 1 point sur les côtés.
D'accord.
Et puis ensuite le ballon est très très vivant. Donc il y a les postes, c'est attaque, milieu, défense et ça se joue dès le début du match. En fait, il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas d'en avant. Le but, c'est vraiment de faire vivre le ballon.
Donc, il y a un mélange de football américain aussi, avec des passes à la main vers l'avant.
Voilà, c'est ça. Et la subtilité, c'est qu'il faut boxer le ballon. C'est pas des passes comme au rugby. En gros, il y a une main qui porte le ballon et l'autre main vient taper avec le poing.
Ah oui, avec le poing, avec la paume de la main.
C'est avec le poing, ouais.
Ouais, c'est voilà. Le poing. Okay, d'accord,
et si on jette le ballon, c'est une faute. Et après, pareil, on peut jouer au pied, en avant, en arrière, de tous les côtés. Donc, c'est vraiment athlétique, ça court beaucoup, mais c'est vraiment chouette à voir et ça peut paraître violent quand on regarde des vidéos sur internet, mais c'est pas du tout le cas.
C'est physique.
C'est physique.
Ça reste
c'est cardio,
quand même...
c'est physique, et c'est un sport d'évitement où on fait beaucoup vivre le ballon. Ouais.
D'accord. C'est étonnant. Est-ce qu'il y a des compositions comme foot? Vous nous avez parlé de cette équipe. Est-ce qu'il y a des systèmes tactiques sur le nombre de joueurs en attaque, en défense? Combien de joueurs il y a par poste? C'est illimité, c'est comme on veut?
C'est comme on veut. Bon, normalement, la base, c'est faire 3-3-3. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a un défenseur ou un attaquant qui monte au milieu pour faire le surnombre. Il y a des stratégies qui se mettent en place au milieu parce que, comme vous l'avez dit, ça ressemble aussi au basket au niveau de l'engagement. Parce qu'en gros, le ballon est lancé en l'air par l'arbitre. Il y a les deux plus grands, en général, des équipes qui sautent.
Comme entre deux au basket.
Voilà.
C'est bien, ça permet de faire des parallèles avec d'autres sports.
Ouais, il y a des stratégies comme ça qui se font.
Il y a cette histoire de lancer le poing de un petit peu comme la pelote basque à la main nue où c'est avec la paume de la main. Au final, comment ce sport-là il est arrivé en France? Parce que c'est pas un sport très répandu en France, ce football australien, donc on présume qu'il est beaucoup joué en Australie. Mais comment c'est arrivé en France? Comment c'est arrivé à Toulouse en plus?
Ben, ce sport, il est arrivé à Toulouse par le biais des Australiens tout simplement, hein, qui ont déménagé tout simplement en France. Et après, il y a des passionnés qui sont allés également en Australie découvrir ce sport. Ils sont revenus, ils se sont dit pourquoi pas créer un club de sport, par exemple, à Toulouse. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Il me semble que notre coach a fait un an en Australie et
tout
il est revenu.
Fait. Ouais, il a fait un an en Australie, il est revenu. Du coup, voilà, il applique les consignes qu'il a reçues en Australie, puisqu'il a joué en Australie du coup au foot australien. Et du coup, il nous applique les consignes à l'entraînement. Donc voilà, le club du Stade Toulousain, il a été créé par des passionnés en fait qui sont allés en Australie, qui sont venus à Toulouse et qui ont voulu créer ce club à Toulouse tout simplement.
Comment ça se déroule une partie? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a des mi-temps? Est-ce qu'il y a des cartons comme au basket?
Alors c'est comme au basket, on a 4 cartons de 20 minutes.
Ah oui, quand même.
Ouais, tout à fait.
C'est pas mal. Ouais.
On a une petite pause de 1 à 2 minutes sur les premier, deuxième carton et troisième et quatrième carton, et après une pause un petit peu plus importante sur le deuxième et le troisième carton du coup. Voilà, comme une mi-temps classique au football.
Très bien. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir? On a parlé de, il faut beaucoup courir, il faut beaucoup se déplacer. Est-ce qu'il faut avoir un profil athlétique plus que physique comme les joueurs de rugby?
Non, pas spécialement, parce que ça dépend des postes. C'est sûr qu'au milieu, il va falloir beaucoup courir, parce que le ballon joue beaucoup au milieu. Il faut savoir défendre, attaquer, aller de partout. Il faut couvrir une grande zone de terrain. Après, devant, que ce soit devant ou derrière, c'est vrai que les physiques assez costauds sont aussi privilégiés pour pouvoir bouger un peu son vis-à-vis, parce qu'en fait, on joue beaucoup en vis-à-vis aussi, en face-à-face avec l'adversaire.
Donc c'est des postes qui sont c'est du marquage individuel.
Voilà, c'est ça. On essaie de mettre en place de la zone dans les stratégies, bon, c'est pas encore trop ça. Mais
ça se développe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport en développement ?
C'est un sport en développement.
En France, du moins. Ouais, ouais. En Australie, c'est quand même bien implanté. À Brisbane, il y a un très grand stade.
Ouais.
Il y a de très belles ambiances, mais en France, c'est encore un peu méconnu.
Oui, c'est méconnu. C'est amateur en France. En Australie, c'est le sport numéro un avec le cricket. Et c'est les plus grands stades au monde, pratiquement. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance de folie. Moi, je suis allé en Australie en janvier. Ouais. Et j'ai pas vu un match de foot australien parce que j'y suis allé pendant ma période d'été en Australie, donc l'hiver ici. Et du coup, c'était du cricket, mais franchement, l'ambiance est quand même assez importante.
Vous sentez qu'il y a vraiment un vrai engouement là-bas, plus que pour le rugby, visiblement.
Oui.
Corentin, vous avez une question ?
Oui, vous parliez du fait qu'il y ait un faible nombre de licenciés. Est-ce qu'il y a une fédération et en tout cas une stratégie de développement à plus grande échelle au niveau national pour essayer de développer un petit peu ce sport, notamment, j'imagine, dans les grandes villes, là où il y a un vivier qui pourrait être plus important ?
Alors, effectivement, il y a une fédération qui est la fédération Léo Lagrange qui nous accompagne pour développer ce sport en France. Voilà, mais tous les autres clubs vont en fait s'appuyer un petit peu sur nous parce qu'on est du coup le Stade Toulousain, on a quand même une image de marque, on va dire, même si on est un sport amateur, une équipe amateur. Mais ça permet de bonifier ce sport, d'abonner une belle image. Et également, du coup, on va plus développer de notre côté le sport sur la région pour avoir plus de populariser ce sport dans un premier temps. Effectivement, ça va se développer au niveau national, mais le but premier, c'est de développer ce sport autour de Toulouse et dans la région. Voilà, c'est ce qui est fait avec la fédération Léo Lagrange.
Donc vous, le Stade Toulousain Football Australien est le club référent en France.
On va pas dire qu'on est référent, on n'est pas les meilleurs, on va dire, mais le fait qu'on est Stade Toulousain, les autres clubs en fait vont pouvoir dire ben regardez, le Stade Toulousain a une section football australien, et avec ça du coup ils vont pouvoir avoir des sponsors. Aller chercher des nouvelles personnes peut-être qui sont pas forcément branchées football australien mais plutôt rugby par exemple, et du coup ils vont se dire
une branche
c'est ça, et du coup ils vont se référencer au Stade Toulousain, faire comment, et tout simplement après ils vont s'intéresser tout simplement.
Alors le partenariat avec le Stade Toulousain, je présume qu'il s'est fait naturellement pour développer un petit peu ce foot australien. Il y a d'autres équipes en région qui joue avec vous ou contre vous ? Enfin, il y a autre que vous et peut-être 2-3 clubs amateurs. Est-ce qu'il y a d'autres clubs de rugby qui sont affiliés à une équipe de foot australien ?
Alors justement, non, on est les seuls affiliés à un club de rugby professionnel, enfin à une association omnisport de toute façon. Oui. Puisque le club de rugby, puisque c'est beaucoup d'autres sports aussi qui sont associés au Stade Toulousain. Donc récemment, le basketball qui a rejoint le Stade Toulousain.
C'est omnisport maintenant, le Stade Toulousain, un petit peu comme le Real Madrid et compagnie. Bon, le mélange est un petit peu... la comparaison est un peu forte, mais...
C'est ça.
Mais voilà. Donc en France, vous êtes le seul club affilié à un club omnisport.
Tout à fait, ouais.
La seule équipe affiliée à un club omnisport. Corentin ?
Oui, je voulais vous demander un petit peu comment vous faisiez aussi pour recruter. Est-ce que vous passez beaucoup par des forums d'associations, les réseaux sociaux, ou est-ce que même vous essayez d'aller... entre guillemets, shipper des licenciés dans d'autres clubs si jamais vous repérez un talent qui pourrait bien s'inclure dans votre équipe.
Est-ce qu'il y a la draft d'ailleurs en France ? Parce qu'en Australie, il y a une draft. En France, je présume que vu comme il n'y a pas assez de licenciés, il n'y a pas de draft.
Non, il n'y a pas de draft. Tout le monde est le bienvenu, garçons et filles, parce qu'on essaie
venez
aussi...
C'est ça.
Non, on essaie aussi de monter un club féminin. Il y a des clubs qui ont pas mal de filles. Nous, à Toulouse, on est en train de monter la section aussi féminine. Et non, on passe beaucoup par les réseaux. La distribution de flyers en sortie d'université.
Le forum des associations, je pense, chaque mois de septembre, en début pour...
Là, cette année, on ne l'a pas fait, on l'a eu fait, mais pas cette année. On a aussi fait une initiation l'an dernier au lycée de Mazamet. Comme il y a beaucoup d'étudiants en sortie de terminale et qui viennent étudier à Toulouse, on s'est dit pourquoi pas aller dans les lycées alentours à Toulouse. Donc voilà, on essaie vraiment, c'est du bouche à oreille.
Il y a également aussi des projets avec les clavés, en fait, avec la fédération Léo Lagrange. Donc, du coup, on va sensibiliser au football australien pour leur apprendre les règles de base et développer ce sport-là. Donc là, avec la Coupe du Monde de rugby, il y a eu un petit projet qui a été effectué avec la fédération Léo Lagrange, qui a permis de populariser ce sport aux plus jeunes.
Comment dure la durée typique d'une saison en foot australien ? C'est sur une année civile, sur une année scolaire, sur plusieurs mois, sur comment ça se passe ?
Ça se passe du coup de septembre à mai-juin à peu près, avec une trêve hivernale en décembre-janvier. Il y a à peu près, donc on l'a pas dit, mais le championnat se fait au niveau national, Il y a
donc vous jouez, il n'y a pas de championnat régional, c'est direct national.
Ouais, c'est direct national. On a eu l'an dernier, les années passées, Nord et Sud, et puis on croisait pour les phases finales. Mais là, on est revenu sur un championnat français. Il y a 8 clubs, et donc c'est un match aller. On va à Paris, on rencontre un peu tous les clubs, et puis ensuite les meilleurs s'affrontent pour les phases finales.
Logistiquement, comment vous en sortez ?
Alors, nous, on est un club un petit peu à part en France parce qu'on va prendre en fait tous les frais de déplacement au niveau des joueurs et également les frais, par exemple, d'hôtel pour les joueurs. En fait, on va démarcher pas mal de sponsors qui vont permettre en fait tout simplement d'avoir assez d'argent et de ne pas avoir de dépenses pour les joueurs à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt un grand pas pour nous. On essaye d'être amateur, mais quand même d'aller vers un niveau un peu semi-pro, on va dire, pour avoir des sponsors et permettre aux joueurs de se déplacer librement, on va dire, sans penser à l'argent.
Ça aide beaucoup
pour avoir des déplacements à 15, parce qu'il faut être à 15 minimum.
À 15, plus le staff, c'est ça, plus ça fait peut-être de la famille pour ceux qui de temps en temps le demandent.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est ça, oui, ça fait 20-25 personnes à transporter. À Arras, je ne sais pas s'ils ont un club, à Lille peut-être, jusqu'à Montpellier, on en a parlé tout à l'heure.
C'est Paris le plus haut.
C'est Paris le plus haut,
Lille est en construction effectivement, mais Paris c'est le club le plus haut et le plus loin pour nous c'est Lyon, parce que c'est un petit peu le trajet un petit peu le plus difficile si on ne prend pas l'avion.
Oui, parce que c'est sûr qu'aller à Lyon en bus ou en train c'est un peu long. Le bus en ce moment, il faut éviter, j'ai l'impression. Les règles du foot australien, on en a parlé rapidement, est-ce qu'elles ont évolué depuis que ça existe, est-ce qu'elles vont évoluer au fil du temps? Un exemple comme le rugby ou le foot, on voit que ça s'adapte. Est-ce que vous pensez que le foot australien va peut-être un jour modifier un petit peu ses règles? On voit qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça peut-être être simplifié? Déjà que le rugby est un sport compliqué, on voit qu'ils essaient de le simplifier. Est-ce que vous pensez que pour le foot australien, ça va arriver un jour?
Alors, des gros changements de règles, on n'en a pas connu. Il y a toujours des petites subtilités qui se font. Mais là, aujourd'hui, je ne vois pas encore comment ça pourrait s'adapter.
Après, il y a aussi... Enfin, le football australien en France, il s'inspire des règles du football australien en Australie, tout simplement de l'AFL, donc l'Australian Football League qui est en Australie. Et en ce moment, il y a des questionnements qui se posent sur la protection des joueurs, sur la santé des joueurs.
C'était ça surtout.
Donc c'est dans ce cadre-là que ça peut changer. Après, les règles, il n'y en a pas tellement, finalement. Je pense que c'est plus simple que le rugby finalement. Il y a beaucoup de règles au rugby effectivement qu'on a du mal à comprendre.
Même les joueurs ne comprennent pas certaines règles. C'est quand même assez incroyable.
Mais une fois qu'on a fait un petit peu un listing de toutes les règles au football australien, c'est assez clair. Mais c'est plus sur de la protection de la santé du joueur, sur les coups à la tête ou des choses comme ça qui peuvent évoluer dans le sport, mais pas sur le reste.
C'est pas comme le foot américain. On a vraiment une on n'a pas de protection. On n'a pas de cage thoracique à protéger. Là, c'est un protège-dents. Peut-être des protège-tibia, un short et c'est pas un t-shirt, c'est pas un maillot, c'est un débardeur d'ailleurs. Ça suffit.
On peut avoir un casque, il y a pas de protège-tibia, il y a effectivement le protège-dents.
Pour ceux qui veulent peut-être faire une initiation au foot australien, il y a pas besoin de dépenser des sommes astronomiques en protection, si ce n'est crampons et protège-dents. Coraline, une question?
Les chocs peuvent être aussi violents qu'au rugby ou c'est moins violent, c'est comment?
Alors, en interview, il y a un de nos nouveaux qui vient du rugby. Et pour lui, le rugby est plus violent que le football australien. En fait, au rugby, le contact est vraiment, vraiment en face à face. Au football australien, il faut vraiment toujours avoir les yeux rivés sur le ballon. Sinon, par exemple, si on va directement jouer le joueur sans regarder le ballon, là, il y aura faute, par exemple.
Oui, donc il y a quand même le ballon qui reste quand même au centre du jeu, j'ai envie de dire.
C'est ça, c'est toujours faire vivre le ballon, toujours le jouer. Après, effectivement, il peut y avoir des contests, on va dire, des contests assez durs. Mais,
sur le ballon en hauteur, par exemple, des joueurs qui le jouent, souvent, c'est ce qui peut paraître impressionnant. Mais c'est ça.
Mais bon, après, en France, on est sur un niveau amateur, c'est moins choquant que ce qu'on peut voir sur les highlights de l'AFL, donc en Australie, qui sont très très impressionnantes. Mais personnellement, moi, ça fait 8 ans que j'en fais, et c'est Benjamin ça fait 11 ans qu'il en fait. Je pense qu'on s'est pas blessé plus que ça.
Non, il y a eu des blessés dans les matchs parce que les contacts peuvent arriver sur le côté sans forcément qu'on le voit, contrairement au rugby où ça arrive de face. Mais c'est quand même très rare.
Voilà, c'est plus un sport d'évitement, donc c'est moins sur du face-à-face. On va vraiment éviter d'avoir ce contact-là.
Oui.
Et puis il y a des règles qui protègent les joueurs, comme c'est interdit de pousser dans le dos, il y a des trucs comme ça, interdit de taper au pied quand un joueur est baissé. Ouais. Il y a quand même des...
Non, vous avez vu monter les escaliers, il n'y a pas eu de soucis de hanche ou quoi, ça s'est fait plutôt naturellement, donc voilà, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Corentin, pour terminer, une dernière question.
Oui, peut-être qu'est-ce que vous diriez pour quelqu'un qui hésite à se lancer dans le foot australien, des personnes qui nous écoutent et qui seraient un peu hésitantes, là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire rapidement pour se lancer?
Déjà, de pas se fier à ce qu'on voit sur Internet, de venir tester, parce que nous, on recrute vraiment toute l'année, on accueille toujours les nouveaux, quoi. Ça fait plaisir de voir toujours du nouveau monde, et comme on le disait avant l'émission, on est avant tout une bande de copains. Ça fait 10 ans qu'on est là et aujourd'hui on a créé des liens incroyables avec certains joueurs. On se voit aussi en dehors du club et c'est vraiment une bonne ambiance. On part tout un week-end jouer, on fait le match, puis on fait la fête. Enfin, il y a vraiment une très très bonne ambiance au sein du club et c'est un sport pour le coup quand on y prend goût. Moi j'arrive de la natation, c'était un truc complètement différent.
Ah oui, c'est un sacré changement là. Ouais, c'est...
Et je suis arrivé là, j'ai retrouvé une ambiance incroyable et je suis toujours là 10 ans après.
On va parler un petit peu plus du club. Où est-ce que se situe? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les réseaux sociaux peut-être pour ceux qui s'interrogent ou même juste qui veulent assister à un match?
Ouais, alors sur les réseaux sociaux, donc c'est tout simple, c'est Stade Toulousain Footy, donc c'est Footy avec un Y à la fin. Voilà, c'est sur Facebook et sur Instagram. On a également un site internet qui a ouvert il y a très récemment, donc le www.stadetoulousainfooty.fr. Donc où on peut retrouver un petit peu les derniers résultats et les actualités et nos sponsors aussi, donc on remercie. Et pour nous retrouver, du coup, c'est au Stade Sordello à Pêche David. Donc on fait les entraînements le mardi et le jeudi à 19h30, donc pendant 2 heures jusqu'à 21h30 voilà, le soir. Et après, s'il y a des besoins de mobilité, on fait pas mal de covoiturage, voilà, il n'y a pas de souci pour nous contacter. On répond assez rapidement sur les réseaux Facebook, Instagram et même par mail. Donc il y a un dernier nouveau
même par mail.
C'est pour dire un dernier nouveau qui est venu mardi et ben voilà, on l'a recruté comme ça par mail tout
magnifique
simplement.
Et bien voilà, comme quoi des fois les choses les plus simples. Le prochain match, vous nous avez dit la saison septembre juin,
le prochain match c'est samedi, donc au stade de Sordello à 15h.
À domicile en plus.
À domicile, contre Lyon. Voilà.
Contre Lyon. Ah ben voilà, c'est bien, vous épargnez le trajet le plus long.
Ouais.
Eh ben merci beaucoup, vous allez rester avec nous tout le long de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour la chronique de Corentin, qui va nous parler de foot, étonnamment. On retrouve juste après Bob Sinclair. I'm trying to strip off in your mind. Through desire, just let it grow. Roll. And keep on dancing together over the flashlights. Lay on with me to get better. Slowly trick me tonight. Take me to your borderline. I swear that I could have it. There's no need to be shy. Take me to the other side of your sickness story and your heartless life. Time to play with all my sins. Tonight I will mean your lies. Let me see your sweetest dreams till we fall in each other's eyes. And don't let me go before I stop being confused. It's time to realize you need me more than you know. Ain't got no time to lose, no rules to deny. Take me to your borderline. I swear that to be shy, take me to the other side of your sickness story and your heartless life. Sickness, story, and your heartless.
Esprit Sport, la chronique.
Voilà, Corentin, le micro est en vous, j'ai envie de dire, voilà, place à la chronique.
Allez, c'est parti, ben, j'aurais pu parler du Ballon d'Or ce soir, et ce sera une chronique football, mais pas forcément joyeuse, pas forcément triste, une chronique un peu suisse, hein, pour ne pas changer.
Ça, c'est votre fer de lance, hein, j'ai l'impression.
C'est un petit peu ça, mais vous l'avez peut-être constaté dans votre entourage ou auprès de suiveurs du football. Aujourd'hui, on observe un certain détachement par les anciens qui se reconnaissent un peu moins dans ce sport, après les belles années 90-2000 par exemple, et par les jeunes aussi qui s'ennuient apparemment devant les matchs qui sont trop longs, et selon les observations des instances du football qui ont plus la tête à consommer des highlights ou des résumés. Bref, le football, plus personne, en tout cas beaucoup moins de gens veulent le consommer. Et je vous avoue que je fais partie de ces personnes qui trouvent de moins en moins d'intérêt dans le foot. C'est malheureux parce que c'est mon sport favori, un sport qui me passionne depuis tout petit. Qu'est-ce que j'en ai passé? Des week-ends collés devant ma télé, dans le salon chez mes parents, à regarder tous les matchs qui passaient. Ou des soirées à essayer de négocier pour pouvoir regarder la deuxième mi-temps avec des champions. Et il est révolu ce temps, ces week-ends, ou même ce week-end-là, je me suis presque forcé pour regarder un classico Barça-Real qui était pas si mal finalement, avec un scénario sympa et un Bellingham qui a sorti un doublé de son chapeau pour venir remporter.
Le maillot est déjà en préparation du côté de ma maison, voilà, sachez-le.
Bon, en tout cas, c'est un match qui m'intéresse beaucoup, d'habitude le classico, et puis là, ben, voilà, il a fallu un petit peu se forcer. J'ai fait également partie de ceux qui n'ont pas forcément regardé cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais alors... Pourquoi sommes-nous moins intéressés par le football? Selon moi, il y a plusieurs petits facteurs que je vais vous livrer pêle-mêle avec déjà des équipes qui sont moins excellentes, des équipes qui passionnent un petit peu moins, des joueurs qui aussi sont moins excellents. On sort d'une période faste avec notamment ben voilà, le duel Messi-Ronaldo qui a pris 15 ans de notre existence à nous qui aimons regarder le foot. On peut rajouter aussi les Benzema, les Modric, les Neymar. Enfin, on a une génération qui se renouvelle mais qui intéresse un petit peu moins. On a un foot aussi qui est devenu beaucoup plus athlétique, beaucoup moins technique et qui laisse un petit peu moins de place à l'instinct. Et encore une fois, voilà, on pense à des joueurs comme Zidane, comme Beckham, comme Ronaldo Nazario. Ces joueurs-là, c'est des joueurs, j'ai l'impression, qui n'auraient peut-être plus leur place dans le football d'aujourd'hui, qui vraiment laissent place au règne de la vitesse et de la tactique à tout prix. Des joueurs qui sont moins attachants, aseptisés, ultra connectés. Il y a peut-être aussi trop de matchs, des saisons à rallonge dont on ne voit pas le bout entre Ligue des Champions qui va changer de format, Ligue des Nations, trop de débats, trop de polémiques et des débordements liés au football, comme on a vu les Lyonnais et leurs bus qui ont été témoins de ça hier à Marseille. Rajouter à ça des instances qui partent un petit peu en cacahuète, si on peut se permettre le terme, avec la FIFA ou l'UEFA qui courent après l'oseille, qui ruinent des compétitions en changeant les formats, confiant l'organisation d'une Coupe du Monde, par exemple, à des pays qui ne transpirent pas une seconde le football. Et vous avez là un cocktail gagnant pour le désintérêt d'un sport qui, normalement, est universel. On rappelle que la Coupe du Monde 2030 se jouera sur 3 continents et dans 6 pays différents. Ça va être magnifique, vivement, 2030. Mais je ne peux pas vous laisser là-dessus. Ça serait criminel de rester à dresser un portrait négatif du football.
Criminel, carrément.
Alors oui, pour moi, ça serait criminel. En tout cas, même si l'arbre du football est en train de crever, comme le yucca qui est dans mon salon, j'ai pas la main verte, j'en suis désolé. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même des branches auxquelles on peut se raccrocher, auxquelles les fans de foot se raccrochent aujourd'hui. On peut prendre l'exemple de certains clubs comme le RC Lens, l'Union de Berlin, le Bayer Leverkusen ou Brighton, qui en ce moment sont des clubs hype, comme disent les jeunes, où on sent l'amour du jeu prodigué par les coachs, la communion avec le public et surtout l'authenticité. C'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, un petit peu plus d'authenticité dans ce football qui est bourré de stats, bourré de fric, bourré de réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de retrouver la base de ce qui nous a fait vibrer quand on était gamin? Parce que ce manque d'authenticité, c'est peut-être ce qui perdra le football.
Ça passe peut-être par regarder un peu moins de matchs, j'allais dire, alors prestigieux non, mais le vrai foot, d'autres championnats peut-être, d'autres matchs qui font moins rêver, mais qui ressemblent un petit peu plus à du foot qu'on connaît, qu'on a peut-être aussi pratiqué pour certains. Ça passe aussi par ça. Erwan, peut-être, vous qui êtes amoureux des petites équipes, est-ce qu'un Pézenas, Luzenac en Coupe de France, ça vous fait rêver? Là, il nous a quitté tellement, c'était...
Non, je suis là. Je pense surtout que ce qui peut aider, c'est un peu comme vous le dites, c'est en fait de couper plus simplement du foot, plus que les petites équipes, etc. Je pense que comme disait Corentin, si on rêve du foot, c'est aussi parce qu'on rêve des grands matchs que qu'on espérait pouvoir regarder à la télé le soir quand on était plus petit, où nos parents nous disaient ce soir tu pourras rester réveillé pour pouvoir regarder, ou alors juste la première mi-temps, et que le lendemain en se réveillant on voulait voir le score qu'il y avait,
On parlait dans
le
les
score
cours de
qu'il y avait,
récré.
ou bien même, je l'avoue, hein, maintenant je suis âgé, majeur et vacciné, donc je peux le dire, où des fois on allumait la télé dans la chambre des parents en secret pendant qu'ils étaient dans le salon pour regarder la fin du match. Voilà, on l'a tous un peu fait.
Sachez, Rouen,
Bah,
que
je
ça
pense
hoche
que
la tête en plateau, hein, voilà.
voilà, c'est un peu ces rêves de gamin, et je pense qu'aujourd'hui on est peut-être, comme dit Corentin, trop abreuvé de foot. Et effectivement, bah, la cérémonie du Ballon d'Or qui a lieu en ce moment même, bah, elle n'aide pas à aller dans le sens très glorieux que Corentin essaye d'impulser et de mettre en avant.
Eh bien voilà. Est-ce qu'on va regarder du foot? Pas sûr. Quoique, peut-être que le pronostic portera sur du foot. Soyez attentifs. Allez, tout de suite, il est l'heure de débattre. La Coupe du Monde de rugby est enfin terminée. Et que retenez-vous de cette édition à la maison? Messieurs les invités en plateau, vous pouvez réagir. Bah tiens, on va commencer par vous. Voilà, c'était pas prévu, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de cette Coupe du Monde? À part la défaite de l'équipe de France, on vient à peine de s'en remettre. Ça y est, le couteau est sorti de la plaie, on a cautérisé, tout va bien. À part ça.
Moi, je dirais une réalisation un petit peu catastrophique, hein, quand même, au niveau de la World Cup Rugby. Et voilà, une Coupe du Monde des années avant non sifflée. Voilà. Je pense
C'est vrai
que
que c'était pas. Ouais.
c'était quand même c'est pas assez pas très glorieux, quoi.
Et il me semble qu'il y avait eu, si je dis pas de bêtises, et Rouen, je parle sous votre contrôle, qu'il y a eu une directive de la World Rugby de moins faire appel à l'assistance vidéo pour éviter de hacher le jeu. Alors ça, c'est une consigne qu'ils ont clairement compris, hein, c'est-à-dire qu'on ne regardait même plus la vidéo.
Alors en fait, le plus précisément, c'est que on va dire que le TMO travaillait un peu dans son coin, en fait, et ne faisait plus forcément discussion avec l'arbitre central, qui est, je trouve, complètement un retour en arrière de l'utilité principale de l'arbitrage vidéo, qui est de rendre le règlement et le jeu plus lisible pour les joueurs et pour le public. Là, si on dit que l'arbitre vidéo, il fait sa tambouille tout seul dans son coin et il regarde. Bah
C'est comme les spectateurs au
ça n'a pas de
final, quoi.
sens. Voilà, ça n'a pas trop de sens. Et en plus, vu que vous dites ça, pour rapidement le dire, durant la finale, il y a eu un moment où l'arbitre vidéo s'est permis d'intervenir alors que le protocole ne le permettait pas. Donc si carrément on met un protocole et que l'arbitre vidéo il fait tout à sa sauce, bah ça n'a plus vraiment de sens.
Très bien. Benjamin, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Coupe du Monde?
Moi, j'ai retenu les sacrés roasts, y compris certaines équipes, les pauvres. Je me mets à leur place, il faut avoir un sacré mental pour aller au bout du match.
La
Mais
Roumanie,
bravo
la
à eux, en tout
Namibie,
cas,
qui ont
ouais.
pris 90 points
Ouais.
aisément. C'est sûr, c'est 4 années peut-être de préparation rayées comme ça en 80 minutes. Mais bonne nouvelle, puisqu'il va y avoir de nouvelles équipes à la prochaine Coupe du Monde. C'est super.
Il paraît, ouais.
Voilà.
C'est pas mal. Mais quand même, il y a une belle note aussi, c'est le Portugal quand même qui a fait une belle
Voilà,
Coupe du Monde.
ça laisse aussi cet espoir. Voilà, on peut retenir aussi le Portugal. Coraline, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Coupe du Monde? Parce que vous en avez vu des matchs en plus.
Exactement, mais tout à fait. J'étais à Marseille et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, au Stade de France. Ce que j'ai retenu, c'est. Et alors, pour le coup, World Rugby, on a tenu compte pour la prochaine Coupe du Monde. Bah, une inégalité totale dans les poules.
Le tirage au sort qui a été fait 3 ans
Beaucoup
en avant.
trop tôt, effectivement. Et du coup, les meilleures équipes étaient dans la poule A et la poule B. Ce qui a donné des quarts de finale splendides. Des
Mais
demi
déséquilibré.
un peu ennuyantes, faut le dire ce qui est. Les demi-finales n'étaient pas à la hauteur des quarts de finale. Donc voilà, au moins, par contre, voilà, World Rugby a pris en compte ça pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est pas plus mal.
On peut retenir, voilà, les performances des Fidji qui ont presque sorti l'Angleterre, qui ont sorti l'Australie, le Portugal qui a gagné son premier match à Toulouse, l'Argentine qui fait un quart, donc voilà, quand même des choses positives à retenir. Courante. On va finir par Erwan parce que je sais que Erwan a beaucoup de choses à dire, lui aussi qui en a vu pas mal. Corentin, cette Coupe du Monde, vous en retenez quoi?
Je m'étais noté pas mal de choses, du bon et du moins bon, forcément. Hein. Maintenant, vous commencez à me connaître, mais vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied avec, en parlant du Portugal et de l'arbitrage. Mais je
Très,
vais
très
revenir quand
fleuri
même sur
entre ça et
l'arbitrage,
le
moi, avec.
bonsaï qui est en train de mourir dans le salon. La chronique jardinage, on va peut-être la faire plus tard, Corentin.
Non, je vais parler plutôt de. Je voulais parler de l'omniprésence du bunker et du coup revenir un peu sur peut-être le côté néfaste qu'aurait eu cette Coupe du Monde sur la vision de l'arbitrage et peut-être le traitement que vont subir certains arbitres lors des prochains matchs, notamment internationaux ou peut-être en Coupe d'Europe. Je pense que ça n'a pas été une bonne promotion pour les hommes au sifflet. Et c'est quelque chose que je regrette quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui vont passer des moments difficiles lorsqu'il y aura des décisions dures à prendre. Voilà, après, nous on a la chance en top 14, comme l'a dit Erwan dans son top, d'avoir une réalisation qui permet de bien travailler avec les arbitres. Ce week-end, on n'a pas eu forcément d'incidents à déplorer. Mais voilà, je pense que ce sera quelque chose à surveiller. Et puis après, dans le positif, peut-être parler de la résilience aussi des All Blacks qu'on donnait pas forcément en forme au début du tournoi et qui petit à petit sont montés en puissance avec des joueurs d'expérience récupérant des joueurs blessés et suspendus et puis arrivant à atteindre la finale et échouant à un petit point face à cette équipe des Sud-Africains.
Abonné au petit point d'avance, hein, les Sud-Africains, les matchs de poule passaient tranquillement, les matchs de phase finale, ça passe toujours à pas grand chose. C'est aussi une chose qu'on peut retenir.
C'est vrai.
Merci. L'engouement aussi autour de l'équipe de France qui a été assez incroyable. Généralement, les Coupes du Monde, c'est le moment où les gens qui ne regardent pas le rugby se mettent à suivre les Bleus. C'était à la fan zone à Toulouse. C'était la plus grande fan zone de France. Bon, elle a été fermée prématurément à cause des récents événements, mais on a pu voir que cette fan zone, on l'a entendu dans le flash de Corinne Saint-Félix, ça a amené énormément de monde.
Il y avait une ferveur autour de l'équipe de France qui était impressionnante. Même ceux qui ne suivent pas effectivement le rugby à l'accoutumée le reste de l'année, ils étaient à fond derrière et tant mieux, c'est bien parce que du coup le rugby se fait une place, j'allais dire au même titre que le football. Non, on n'y est pas encore. Pas tout de suite, mais se fait une place réellement dans le cœur des Français.
Erwan, cette Coupe du Monde, vous en retenez beaucoup, beaucoup de choses, je présume.
Oui, effectivement, cette Coupe du Monde, comparée au débat qu'on a pu avoir donc, la semaine dernière sur est-ce la pire Coupe du Monde de l'histoire, c'est vrai qu'au final, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et je me dis qu'il y a quand même eu des bonnes choses à retenir. C'est vrai qu'on a tendance toujours à retenir ce qui est un peu plus récent ou bien ce qui nous a un peu plus affecté d'un point de vue émotionnel. Effectivement, l'élimination de l'équipe de France, je vais pas en parler, mais nous a fait très mal. Mais à côté, il y a eu quand même de très belles choses. On a parlé du Portugal, effectivement, quand on voit une équipe qui s'était qualifiée à une seule Coupe du Monde avant, le plus grand nombre de points qu'elle prend, c'est 34 points contre une nation qui a fini première du groupe, sachant qu'elle en prend 34, mais qu'elle en marque 14 de mémoire, si je me souviens bien, en ratant au moins 2-3 occasions franches d'essai. Parce que le Portugal, il faut rappeler, vous avez compris, j'aime beaucoup cette équipe, mais ils ont raté énormément d'occasions d'essai. Et s'ils avaient, ne serait-ce qu'auraient réussi à aller au bout de la moitié de ces dernières, il y aurait eu des matchs, il y aurait encore plus d'exploits. Et on aurait peut-être même pu avoir une surprise avec, par exemple, je pense, une qualification directe du Portugal pour la Coupe du Monde 2027. Mais voilà, il y a eu de très belles choses. On parlait des Blacks, effectivement, les All Blacks, il y a 2 ans, ils étaient au fond du trou. D'ailleurs, je pense que Ian Foster, il était à 2 doigts de rentrer en slip en Nouvelle-Zélande, parce que sincèrement, s'il avait gagné la Coupe du Monde, alors que ça fait 2 ans que c'est la risée du pays, que tout le monde l'insulte à longueur de journée dans les médias, s'il avait réussi à amener les All Blacks sur le toit du monde, ce qui était impensable, je pense que vraiment, il y aurait eu une... Enfin, ça aurait été peut-être on s'en rend pas compte parce que c'est le Black, on dit qu'ils sont toujours favoris, mais ça aurait été un exploit monumental. Ensuite, après, pour tout ce qui va être victoire de l'Afrique du Sud, alors oui, on se dit ils jouent moche, mais je me suis dit aussi d'un côté, en 2011, si on avait gagné la Coupe du Monde, est-ce que j'aurais pas été content quand même, hein, parce qu'en en 2011, la France, c'est pire que l'Afrique du Sud.
L'état est qu'on l'a pas gagné.
Oui, on l'a pas gagné, mais on est arrivé en finale et on méritait déjà pas forcément d'être en quart en 2011. Ensuite, en demi, on va dire qu'on fait un quart plutôt convaincant. En demi, on vole un peu la place du Pays de Galles, qui avait peut-être la meilleure équipe de son histoire avec l'équipe de 2019. Donc, on a souvent eu un peu de chance en Coupe du Monde. Là, on n'en a pas eu. Donc, voilà. Et les Box, eux, en ont eu, en ont profité, ont eu une super stratégie. Voilà, ça permet de se rendre compte de petits trucs comme ça. Puis après, il y a des beaux messages, voilà, envoyés du côté des petites nations. Je dois forcément en parler. Vous savez que j'aime beaucoup ça, mais en dehors du Portugal, voilà, l'Uruguay qui a réussi à montrer de très belles choses. Les Samoa qui ont montré qu'il y avait un beau vivier, même s'ils ont encore un peu de mal à avoir un plan de jeu on va dire, stable. Et bien évidemment, les Fidji qui sont allés jusqu'en quart et qui, s'ils s'étaient réveillés un peu plus tôt lors du match face à l'Angleterre, auraient très clairement pu aller en demi. Voilà, donc il y a quand même des belles choses à résumer de cette Coupe du Monde. Par contre, l'impact de cette Coupe du Monde sur le public français, elle est très très triste, notamment au niveau de tout ce qui peut être complotisme ou insulte envers les arbitres
Ça,
qui continuent
ouais.
à.
La mauvaise foi, la mauvaise foi française reste quand même, voilà, on aime bien râler. On n'est pas
C'est
content de
ça exactement.
l'arbitrage et la finale n'a pas forcément aidé les choses. Bonne nouvelle quand même pour la Nouvelle-Zélande, ça avait un meilleur joueur.
Tout le monde,
Rapidement. Tout le
effectivement,
monde valide.
ouais.
Même en plateau, ça avait un, rien à dire. Il y avait
C'est
Etsebet,
pas honteux,
Dupont
non.
et Boundiaki en face. Choix logique.
Ça aurait été quand même aberrant de choisir Etsebet
Oui,
compte tenu de toutes les fautes non sifflées.
voilà, là on est bien, là on est dans le
Là,
terroir là.
exactement. Non, mais ça aurait été
Après,
aberrant.
Etsebet, c'est quand même le meilleur joueur dans les airs sur toute la Coupe du Monde. Ça,
Oui,
faut pas
oui.
lui enlever non plus, quoi.
Bah, c'est bien, mais ça verra, il est meilleur sur terre que dans les airs. Voilà.
Oui, voilà.
Voilà. Et le rugby, ça se joue pas forcément que dans les airs. Ah, c'est à portée de la négation, Erwan. Vous en sortez trop bien d'habitude. Là, on a envie un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues.
Non, après, Ardis Savea, super, hein. Franchement, un
Oh
titre
bah super,
totalement mérité.
ça c'est de l'analyse, Erwan. Merci. Ardis Savea, il est top, hein. Franchement, il mérite son trophée. Merci.
Non, mais excellent joueur en puissance et en puissance offensive et lucidité défensive, très bon dans les grattages. Il improvise toujours parfaitement en fonction de la situation et c'est un joueur rempli d'intelligence. Et avec des qualités physiques indéniables.
Eh
Voilà.
bien voilà, on terminera sur ces belles paroles. Bien rattrapé, Erwan. Peut-être que vous reviendrez la semaine prochaine. Tout de suite, il est l'heure de pronostiquer un match. Alors cette petite musique, elle est bien, puisque cette petite musique nous rappelle que Anne-Françoise et Erwan, bien vous avez eu tout juste sur le pronostic de la semaine dernière, vous avez vu une victoire de Liverpool face au TFC. Bravo! C'était franchement incroyable après votre débâcle sur le match France-Écosse d'il y a 15 jours. Voilà, félicitations. Anne-Françoise n'est pas là, mais je sais qu'elle va écouter l'émission et donc on la félicite elle aussi. Voilà. Félicitations, Erwan.
Oui, merci. Bah, c'est vrai que malheureusement, on ne pouvait
Vous
pas penser
sentez,
autre
oui,
chose qu'une
sentez
victoire
un
de
petit peu
Liverpool.
d'ironie.
C'est un peu triste, mais on était mis à l'écart de niveau des deux
Voilà,
équipes.
c'est ça. Alors là, on va se rapprocher un petit peu puisque je vais vous demander de qui va le mieux s'en sortir entre le leader de Top 14 et le Stade Toulousain. Pau Stade Toulousain, c'est dimanche à 21h05 pour une nouvelle journée de Top 14 et on va demander d'abord à la supportrice abonnée au Stade du Hameau de nous donner ses arguments en 30 secondes et son pronostic.
Alors, supportrice abonnée qui sera d'ailleurs au stade dimanche. Et oui, voilà. Ouais. Premier.
C'est bien, vous avez perdu 5 secondes déjà.
Ouais, non, voilà. Je pense que la section va l'emporter tout simplement parce que le stade Toulousain n'a pas encore remporté, réuni, pardon, tous ces joueurs de la Coupe du Monde. Tout le monde n'est pas revenu, donc je pense qu'une victoire de la section paloise me semble assez logique. Bonus défensif tout de même du stade Toulousain. Allez, je mets un 20 à 15.
Très bien, 20 à 15, c'est courageux. Erwan, vous qui êtes plutôt. Est-ce qu'on peut dire supporter du Stade Toulousain?
Oui, complètement. J'étais
Complète,
abonné même avant.
complètement, mais avant. Du coup, 30 secondes pour vos arguments.
Bah, et je vais rejoindre un peu Coraline parce que le problème, c'est que la section paloise, c'est une équipe auquel le Stade Toulousain arrive vraiment pas depuis quelques années, surtout à Pau. Et puis voilà, la section paloise a été très 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 forte ce week-end, elle a montré un très beau visage. Donc voilà, moi aussi, je vais miser sur une victoire de Pau, d'une courte tête, bonus défensif pour Toulouse. Allez, une petite victoire 21 à 18, on va dire,
Ah,
pour
c'est
Pau.
déjà un petit peu plus serré. On va demander maintenant à notre Suisse à nous, Corentin, vous, à part le match nul, c'est quoi vos ambitions pour ce match?
Alors pour ce match, je pense que le Stade Toulousain va déjà faire tourner, en tout cas faire rentrer d'autres joueurs sur la feuille de match, avec peut-être notamment Baptiste Germain qui avait été en vue. Joël Mercler aussi à la première ligne qui avait été pas mal. Peut-être que Méafou va revenir. Je vois le Stade Toulousain gagner sans prendre un bonus offensif et la section paloise sans prendre de bonus défensif. Sûrement une victoire, voilà, 25-18 dans ces eaux-là pour le Stade Toulousain.
Très bien, voilà, vous n'avez pas mis un match nul et ça c'est bien. Merci Corentin d'apporter un petit peu d'éclaircissement là aussi dans cette émission. Messieurs en plateau, Stade Toulousain, alors vous avez de très beaux polos, Stade Toulousain, football australien. Allez, un petit pronostic. Est-ce que vous voulez nous donner un petit pronostic?
Allez, on peut. Moi, pour le coup, je pense que on aura pas mal de retours de voilà des internationaux. Donc là, on a pu voir des essais de Ange Capozzo, je crois.
Il était magnifique d'ailleurs. Il a tapé le ballon deux fois comme au foot pour voilà. Il a couru derrière, il a aplati, c'était très bel essai.
Donc bon, on peut avec ces internationaux là, pardon, on peut s'attendre à de beaux essais. Donc je pense toujours le Stade Toulousain, donc 30-18.
Allez. Ah ouais, à 30 points quand même, c'est pas mal. Hein.
On est un peu chauvin quoi.
Ah ouais, voilà, bah oui, clairement.
C'est parti de la soupe quoi.
C'est corporate.
C'est ça, c'est très corporate.
Benjamin, pour votre pronostic.
Oh bah je vais rejoindre Flo de toute façon. Oui, le Stade Toulousain, c'est le club de la ville et c'est aussi notre club à nous. Donc bon, je vais peut-être pas mettre 30 points, mais on va dire 22-16.
Ah, plus, vous voyez, plus de 20 points en tout cas.
Tout
le monde voit plus de 20 points au final dans l'émission aujourd'hui. Rapidement aussi, est-ce qu'il y a Montauban-Colomiers en Pro D2, rapidement, comme ça, tour de plateau, c'était pas prévu, mais il nous reste quelques instants. Le petit derby des voisins là, Montauban-Colomiers, quelques kilomètres d'écart.
Montauban gagne.
Montauban 6ème, Colomiers 12ème, Corentin, Erwan.
De mon côté, je pense peut-être plutôt une victoire de Montauban, on va dire, voilà, avec une petite avance. Voilà, Colomiers, je suis pas trop en faveur des équipes d'Haute-Garonne actuellement.
Très bien, ça tombe bien, Montauban c'est dans Tarn-et-Garonne. Corentin ?
Moi j'allais dire une courte victoire de Colomiers.
Voilà, les messieurs en plateau. Alors là, vous n'avez pas le maillot de l'US Colomiers, donc comment on fait?
Moi, je pense Montauban. De toute façon, je suis de là-bas. Enfin, là-bas.
Parfait.
Magnifique. Et à Montauban, donc j'allais dire, allez, Montauban avec sa piaque en feu.
C'est ça, la cuvette.
C'est ça, la cuvette.
Meilleure ambiance de Pro D2.
Allez, pour équilibrer les pronos, je vais dire Colomiers.
Voilà, voilà. Là, on retrouve un petit peu cette neutralité. Là, on apprécie, magnifique. On fait pas de vagues et ça, c'est beau. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, messieurs. On rappelle le foot australien sur Facebook, Stade Toulousain, foot australien sur Facebook, sur Instagram, sur leur site et même par mail. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Avec plaisir.
Merci à vous de l'invitation. C'était vraiment chouette.
Voilà. Eh bien, on va vous demander une invitation pour venir, peut-être faire un essai, Coraline.
Pourquoi pas, en plus, si l'équipe féminine qui est en train de se
il monter, me de voir, pas. Il me tarde de voir Erwan sur une partie de foot australien.
Avec plaisir.
Avec plaisir, très bien. Ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
C'est ça, les maillots sont prêts, attention.
Alors là, on est quel jour? On vient jeudi.
On est lundi.
Voilà, on vient jeudi.
Je viendrai après la trêve hivernale.
Superbe, parce qu'il fait encore froid cet hiver. Merci d'avoir été avec nous tous en plateau. Merci Corentin, merci Erwan, merci Coraline.
Merci à vous.
C'était un très petit merci. La semaine prochaine, une nouvelle équipe, un nouveau face-à-face où nous retrouverons Joël Thibault. Il est aumônier des sportifs et auteur du livre « L'aumônier des champions ». Il travaille avec Olivier Giroud, des joueurs du 15 de France. Mais qu'est-ce qu'un aumônier sportif? Quel est son travail au sein de ce monde-là? Et aussi, quelle est la place de la religion dans le sport? On en entend de plus en plus parler. Puis on en fera le point donc avec Joël Thibault. La semaine prochaine, très belle semaine à tous et à bientôt.